à plus de 100 000 personnes en France.
Chaque année.
Ouais, le chiffre fait froid dans le dos.
100 000 personnes qui découvrent vraiment de la pire des manières que leur assurance de prêt immobilier ne les protège absolument pas comme elles l'imaginaient.
Pas du tout, non? C'est le drame classique. Un accident grave, une maladie qui dure un peu, et paf!
Exactement. Le contrat sur lequel on comptait pour sauver son patrimoine, ça se révèle être une vraie passoire financière.
C'est clair. Et le pire, c'est le moment de la signature.
Bah oui, le fameux réflexe commun. On est chez le notaire ou à la banque, on achète la maison de sa vie et on a juste un sentiment de soulagement.
On appose sa signature au bas d'une montagne de documents, on se dit, voilà, c'est fait.
C'est ça. On considère l'assurance emprunteur comme une ligne administrative de plus, mais en fait, c'est une erreur colossale. Monumentale même.
Du coup, aujourd'hui, on déchiffre l'ingénierie invisible de ces contrats. Et les sources qu'on analyse pour cette plongée, elles s'appuient sur une énorme base de données régionale.
Oui, c'est une compilation très détaillée issue d'Aura Finance. C'est un cabinet de courtage bordelais qui a été fondé en 2008.
Voilà, ils traitent ça en Gironde et dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Ils ont audité des milliers de dossiers, donc ils ont un recul massif.
Oui, l'idée ici, c'est pas de survoler les bases, hein. C'est vraiment de comprendre la mécanique des fluides de ces garanties, de voir comment le risque est réellement calculé.
Tout à fait. L'objectif, c'est de s'armer contre ces pièges. Donc, pour commencer, le socle de ces contrats repose sur des acronymes très, très spécifiques, les fameuses ITT et IPT.
Je dirais qu'il faut même aller un cran plus loin. Ces acronymes, ce n'est pas juste des catégories administratives.
C'est-à-dire.
Ce sont de véritables algorithmes de déclenchement financier. Et la clé de voûte, en fait, c'est l'ITT, l'incapacité temporaire totale.
D'accord. Sur le papier, le concept a l'air simple, non?
En théorie, oui. C'est le filet de sécurité qui s'active quand ton état de santé t'empêche d'exercer ton activité de manière complète, mais provisoire.
Donc les données d'Aura Finance pointent des cas concrets, genre une grosse chirurgie, un accident de la route ou un burn-out sévère.
Exactement. Sauf que la subtilité réside dans la temporalité. Cette prise en charge, elle a une date de péremption stricte.
Ah bon? Fixé à combien?
À 1095 jours, très exactement.
Attends, 1095 jours, ça nous amène à exactement 3 ans.
Pile 3 ans.
Et ce chiffre, il n'est pas sorti du chapeau d'un actuaire par hasard. Il y a forcément une corrélation avec les régimes obligatoires, non?
T'as tout compris. C'est le miroir exact du système public. Ces 3 ans, c'est la durée maximale pendant laquelle la sécurité sociale verse des indemnités pour une affection de longue durée.
Ah, je vois. L'assurance privée vient juste se calquer sur la fin des droits du régime obligatoire. C'est comme un bouton pause sur les factures pendant qu'on guérit.
C'est une très bonne analogie. Et ensuite, il y a la mécanique du délai de franchise. Parce que l'ITT ne paie jamais dès le premier jour d'arrêt.
Bien sûr, il y a une période de carence.
Voilà, une franchise contractuelle qui va en général de 30 à 180 jours.
En fait, c'est un pur calcul de probabilité pour l'assureur. Parce que la majorité des arrêts ne durent pas si longtemps.
Exact. La plupart durent moins de 90 jours. Donc, en imposant une franchise de 90 jours, l'assureur évacue l'immense majorité des sinistres de son bilan.
C'est malin. Et j'imagine que plus la franchise est courte, plus on paye cher.
Logique. Plus elle est courte, plus l'assureur assume un risque fréquent. Donc, la prime mensuelle explose.
D'accord. La mécanique de l'ITT gère la période transitoire de 3 ans maximum, mais la véritable angoisse financière, c'est le moment où le médecin dit que le retour au travail est impossible.
C'est là que ça se corse, oui. La consolidation médicale.
C'est ça. Et là, le deuxième acronyme est censé prendre le relais. L'IPT, le bouton d'éjection.
L'invalidité permanente totale. C'est censé être le bouclier définitif. Elle se déclenche quand un expert évalue que le taux d'invalidité atteint ou dépasse la barre fatidique des 66%.
Et comment il calcule ce chiffre? C'est purement physique?
Ah non, la méthode est redoutable. Le médecin conseil de l'assurance utilise un tableau à double entrée.
Un tableau à double entrée.
Ouais. D'un côté, il croise le barème fonctionnel, donc les gestes du quotidien, et de l'autre, le barème professionnel qui évalue l'impact direct sur la capacité à générer un revenu.
Ok. Et si l'équation donne 66% ou plus, l'assureur paye tout jusqu'à la fin du prêt ou solde le capital?
C'est ça, t'es tranquille.
Mais mathématiquement, cette barre des 66%, elle crée un vide immense. Attends, si l'IPP, qui est censé couvrir les invalidités entre 33 et 66%, est exclu des contrats,
Ouais.
cela veut dire qu'une personne considérée comme à moitié invalide pourrait ne recevoir absolument aucune aide? Que se passe-t-il dans cette zone grise?
La réponse brute, c'est que dans la majorité des contrats de groupe proposés par défaut par les banques, il ne se passe rien.
Rien du tout.
L'emprunteur ne reçoit pas un seul centime.
C'est hallucinant.
Et c'est exactement ce que les audits régionaux d'Aura Finance mettent en lumière. C'est le piège de l'IPP, l'invalidité permanente partielle. La logique derrière cette exclusion, elle est super cynique, mais très rationnelle pour la banque.
Pour faire baisser le prix d'appel, j'imagine.
En plein dans le mille. Inclure l'IPP par défaut, ça ferait grimper le coût global. Or, pour vendre un crédit immobilier, la banque doit afficher un TAG le plus bas possible.
Le fameux taux annuel effectif global.
Voilà. Donc, on ampute le contrat d'une couverture essentielle juste pour alléger la facture faciale. C'est une pure illusion de sécurité.
C'est un choix délibéré d'architecture financière pour gagner des parts de marché au détriment total de l'emprunteur. C'est fascinant de voir comment le risque est transféré.
Et attends, c'est pas fini. Cette asymétrie d'informations, elle s'arrête pas aux acronymes.
Ah oui. L'étude insiste lourdement sur la méthode de calcul du versement lui-même. C'est la différence entre le mode indemnitaire et le mode forfaitaire.
C'est sans doute la clause la plus destructrice si elle est mal configurée. Le mode indemnitaire, qui est vraiment la norme dans les contrats standards, ça fonctionne sur la compensation de perte de revenus.
Explique-nous un peu la mécanique sous-jacente.
L'assureur va d'abord regarder ce que la sécurité sociale te verse, ensuite ce qu'une éventuelle prévoyance d'entreprise maintient comme salaire, et l'assurance ne va combler que la différence pour te ramener à 100% de tes revenus.
D'accord. Faisons le calcul à voix haute pour bien comprendre l'ampleur du problème.
Vas-y.
Prenons un emprunteur qui gagne 3000 euros par mois. Il a une mensualité de crédit de 1000 euros.
Ok, très classique.
Il a un accident, mais grâce à un très bon système de prévoyance de sa boîte, son salaire de 3000 euros est intégralement maintenu pendant son arrêt. Que fait le mode indemnitaire ?
Eh bien, le calcul de l'assureur va être implacable. Revenu antérieur, 3000. Revenu actuel, 3000. Perte subie, 0.
Donc, l'indemnité versée pour couvrir le crédit de 1000 euros, c'est 0 euros.
0 euros. Et ça, même si l'emprunteur a continué de payer fidèlement toutes ses primes d'assurance pendant des années. L'assureur s'enrichit littéralement sur la qualité de la couverture sociale que la personne s'est construite par ailleurs.
C'est ahurissant. L'assureur mutualise son propre risque en s'appuyant sur les cotisations sociales des autres. C'est la définition même de payer dans le vide.
C'est pour ça que la source recommande de fuir ça. Le mode forfaitaire, c'est la seule parade logique.
Et ça fonctionne comment, le forfaitaire ?
Ça coupe court à toute cette gymnastique comptable. La règle est binaire. Un sinistre survient, ta mensualité est de 1000 euros, l'assureur verse 1000 euros. Point final.
Sans regarder le reste.
Aucune déduction. Aucune enquête sur les revenus maintenus par l'employeur ou l'État. C'est une obligation de résultat financier totalement décorrélée du reste de ton patrimoine.
C'est vital, en fait. Les données montrent que basculer vers un mode forfaitaire, c'est l'acte de gestion le plus critique quand on audite un contrat.
Totalement. Mais la sémantique va encore plus loin dans le contrôle du risque. Il y a un autre truc.
Oui, le corpus documentaire soulève une nuance qui ressemble à un simple détail de grammaire, mais qui est un outil juridique massif. La différence entre l'incapacité à exercer, je cite, « sa profession » et l'incapacité à exercer « toute profession ».
Ah, ça c'est le fondement même de la médecine d'assurance. C'est redoutable.
Illustrons ça avec un cas pratique tiré des exemples de la source.
Prenons un chirurgien, ou même un artisan du bâtiment qui perd l'usage de sa main dominante. Si le contrat dit clairement « sa profession », le médecin conseil constate qu'il ne peut plus tenir un scalpel ou un outil.
Et donc, indemnisation à 100%.
Voilà. Le risque est évalué sur l'hyperspécialisation de la personne.
Mais si je comprends bien, si le contrat mentionne « toute profession ».
Là, l'algorithme d'évaluation change du tout au tout.
C'est-à-dire qu'un chirurgien qui subit une opération l'empêchant de faire son métier très physique pourrait s'entendre dire par l'assureur « vous pouvez toujours répondre au téléphone derrière un bureau, donc on ne paye pas. »
C'est exactement ça. D'un point de vue cognitif, il est apte à donner des cours, à faire de l'administratif. Donc, il est capable d'exercer une profession.
C'est un piège sémantique colossal. Le taux d'invalidité va s'effondrer sous les 66%.
Voire sous les 33%, et l'indemnisation sera nulle. C'est vraiment une protection en trompe-l'œil. Exiger la mention « sa profession exercée au moment du sinistre », c'est un impératif absolu.
Le mode forfaitaire et la bonne définition sont donc les seuls vrais boucliers. Ce qui est mis en lumière ici, c'est que l'assurance emprunteur, c'est pas un produit taille unique. La solidité du contrat dépend viscéralement du statut professionnel.
Première couche de blindage.
Les besoins d'un développeur freelance n'ont rien à voir avec ceux d'un prof ou d'un ingénieur.
Exactement. Plus ton blindage social est fin, plus ton assurance privée doit être réactive. Prenons l'extrémité la plus exposée, les TNS, les travailleurs non salariés.
Les artisans, les libéraux, les chefs d'entreprise, quoi.
Voilà. Pour eux, le filet de sécurité étatique est super faible. S'ils s'arrêtent, les revenus s'effondrent presque immédiatement. La trésorerie de la boîte ne peut pas absorber l'absence du boss éternellement.
Donc la stratégie pour un indépendant, c'est de raccourcir la franchise au maximum ?
Le curseur doit être sur 30 jours, 60 au grand maximum, avec l'IPP incluse évidemment, et un mode forfaitaire béton. C'est super courant sur le bassin d'Arcachon et à Bordeaux d'après le cabinet.
C'est une question de survie pour l'entreprise. Et à l'autre extrémité de la chaîne de risque, on trouve les fonctionnaires ?
Ah, là, la logique s'inverse complètement, parce que l'État est son propre assureur. Un fonctionnaire titulaire garde son traitement à plein tarif pendant de longs mois en cas de congé maladie.
Puis à demi-traitement, souvent compensé par des mutuelles super performantes, donc le besoin d'une intervention rapide de la banque est nul.
C'est ça. Le fonctionnaire peut délibérément allonger sa franchise à 120, voire 180 jours.
C'est fascinant, c'est vraiment un système de vase communicant entre l'État et le privé. Finalement, seuls les fonctionnaires peuvent se permettre d'être un peu radins sur le délai de franchise sans se mettre en danger car leur statut fait office de premier filet.
C'est l'optimisation par excellence. Le risque fréquent disparaît pour l'assureur, la prime s'effondre, mais on garde l'IPT pour le risque catastrophique.
Et au milieu, on a le salarié du privé.
Lui, il a une couverture hybride. La convention collective maintient le salaire, mais c'est dégressif. Au bout de 90 jours, en général, les revenus chutent brutalement.
On tombe aux indemnités de la Sécu, soit à la moitié du salaire brut.
Voilà. Donc, la recommandation standard, c'est de caler la franchise sur ce point de bascule de 90 jours. Toujours en forfaitaire, bien sûr.
La théorie est implacable, mais la pratique, c'est un champ de bataille. À la signature du crédit, la banque impose souvent son propre contrat de groupe. Un contrat moyenné, optimisé pour personne, bourré de modes indemnitaires.
C'est la réalité du terrain. L'urgence et la pression dominent.
Mais maintenant que le contrat parfait est identifié, que faire si l'on a déjà signé cette mauvaise assurance avec sa banque ?
C'est là que le cadre législatif intervient. Il y a eu plein de lois, mais l'aboutissement, c'est la loi Lemoine de 2022.
Elle a tout changé, non ?
Elle a pulvérisé le système. Aujourd'hui, n'importe quel emprunteur peut résilier et changer son assurance à tout moment, sans frais, sans attendre une date anniversaire.
Et même sans questionnaire médical, sous certaines conditions, d'après le guide 2025 de Rafinance.
Exactement. C'est une liberté totale. Mais attention, la banque exige quand même un truc, l'équivalence des garanties.
On ne peut pas juste prendre un contrat au rabais.
Non. Le nouveau contrat doit offrir une couverture au moins égale. Mais dans les faits, les contrats externes proposés par les courtiers surclassent tellement les contrats bancaires qu'ils incluent direct l'IPP et le mode forfaitaire. Le refus est quasi impossible.
Et financièrement, l'impact est massif. On parle de restructuration majeure du coût du crédit.
Ah, les différences sont vertigineuses. Le taux d'une banque varie entre 0,30 et 0,60% du capital. En délégation externe, pour un profil sain, ça tombe à 0,10, 0,15.
Sur un prêt de 250 000 euros sur 20 ans à Bordeaux, la différence n'est pas anecdotique. On parle de milliers d'euros.
C'est un delta de 10 à 15 000 euros parfois. C'est du pouvoir d'achat net.
Attends, avec cette loi Lemoine, la porte de la prison bancaire est grande ouverte. On peut économiser des milliers d'euros juste en demandant un audit gratuit. Est-ce que la seule chose qui retient encore les emprunteurs de corriger ça, c'est simplement la phobie administrative ?
Franchement, oui. La friction psychologique, la boue administrative.
C'est clair que la paperasse, ça rebute.
Les banques ont rendu ça légal, mais super épuisant. Faut envoyer des recommandés, se battre avec des grilles complexes. Les gens veulent plus rouvrir un conflit avec leur banquier une fois installé.
C'est pour ça que les courtiers, comme Aura Finance, s'occupent de tout. Ils ont traité plus de 10 000 dossiers juste pour absorber cette friction à la place du client.
C'est l'industrialisation de la défense du consommateur, en fait.
Ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que l'assurance emprunteur, c'est pas qu'une ligne de coût sur un tableau d'amortissement. C'est la clé de voûte qui protège un patrimoine.
C'est un organisme vivant, oui.
Comprendre le taux de 66% pour l'IPT, choisir le mode forfaitaire, adapter sa franchise à son métier et utiliser la loi Lemoine pour faire baisser la facture, ce sont les étapes indispensables d'un emprunt intelligent.
C'est l'analyse la plus lucide qu'on puisse faire. L'asymétrie d'information est gigantesque et utiliser la réglementation, c'est devenu une nécessité patrimoniale.
Absolument. D'ailleurs, quand on voit qu'un simple mot dans un contrat, comme le fait d'être assuré pour sa profession et non toute profession, peut littéralement sauver ou ruiner une famille après un accident, ça pousse vraiment à s'interroger.
Oh que oui.
Combien d'autres contrats du quotidien, genre l'assurance auto, l'habitation, la mutuelle, cachent en ce moment même des clauses invisibles qui dicteront notre avenir en cas de crise ? Je pense que la prochaine fois que l'on vous tend un stylo pour signer des conditions générales, le regard qu'on porte sur le papier changera radicalement. Voilà, c'était notre analyse en profondeur du jour. On se retrouve très vite pour un prochain décryptage.